Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin, ce lundi matin, est Nathan Guillemot. Il est vice-président étudiant et vie étudiante à l'université de Rennes 2 pour l'Union étudiante. Il a pris le train et il est arrivé directement au micro de la matinale. Je le remercie. Bonjour.
Et bonjour, merci à vous.
Alors, on va parler de nombreux sujets ce matin, mais j'avais envie de me pencher un peu sur la vie étudiante. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes de la part des étudiants qui vivent, pour certains d'entre eux, dans la précarité, dans la difficulté d'apprendre également. On parle beaucoup de l'éducation nationale en ce moment. Il y a eu beaucoup de promesses, alors qu'ils ne vont peut-être pas dans le, directement impacter les étudiants. Mais ces demandes, elles sont là aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir être entendu ou d'être compris? Ou est-ce qu'une fois encore, vous vous dites « voilà ».
Très sincèrement, je pense pas que les étudiants au sens large, nous non plus, en tant que syndicat, on ait beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce gouvernement-là, en tout cas par rapport à nos revendications. Maintenant, déjà, si on pouvait aller au bout des quelques chantiers qu'avait entamé le gouvernement précédent, ce serait bien. Parce qu'il y avait eu, par exemple, une réforme des bourses qui avait été, en tout cas des concertations autour d'une réforme des bourses qui avait été entamée sous Sylvie Retailleau. Et là, on ne sait même pas si ça va être continué, si ça va être repris, on n'en sait rien. Donc en fait, le peu de choses qui pouvaient s'améliorer au gouvernement précédent, là, semble avoir été, si ce n'est abandonné, mis en stand-by. Donc déjà, si on pouvait aller au bout de ces chantiers-là, ce serait déjà pas mal, quoi. Voilà, donc on espère un petit peu déjà ça, et après on verra la suite, mais voilà.
Avec les contraintes budgétaires qui vont avec, puisque là on est dans un, on va dire un cycle d'économie, avec une grande incertitude également, beaucoup de choses ont été amendées, on a vu tous ces amendements qui ont été déposés, essentiellement d'ailleurs par le bloc de la gauche à l'Assemblée nationale. Les textes sont désormais entre les mains du Sénat, et ce profil de 49-3, c'est pas forcément une bonne nouvelle.
Moi déjà, c'est pas une bonne nouvelle d'un point de vue démocratique quand on, le 49-3 qui se banalise de façon aussi simple, comme si ça devenait une procédure classique alors que ça ne devrait pas l'être, mais ça c'est une première chose. Et effectivement, c'est quand même un peu triste d'ailleurs, c'est qu'on a vu beaucoup d'amendements être adoptés qui allaient dans le sens des revendications qu'on pouvait avoir, mais en n'ayant aucune forme d'espoir que ces amendements-là allaient à la fin avoir une application concrète, parce qu'on sait très bien qu'il allait avoir le 49-3, que de toute façon, il n'y a pas de... que le Sénat allait effectivement retoquer tout ça. Donc, même ce qui pourrait passer comme étant des bonnes nouvelles ou des mesures positives, on savait que de toute façon, ça n'irait pas très loin. Donc, voilà, il y a quand même une certaine morosité autour de ce budget qui, à la fin, sera forcément décevant, quoi.
On entend les collectivités territoriales qui se plaignent, on entend les Français aussi qui ont une grande attente sociale. Il y a eu ce vote, j'allais dire ces votes avec les élections européennes et les deux tours de législatives qui ont fait monter le Rassemblement national. C'est une inquiétude aussi pour le monde étudiant, cette forme de gouvernance qui pourrait peut-être induire à terme, plus ou moins long terme, induire une forme, en tout cas, pourrait abîmer peut-être le processus démocratique.
Oui, bien sûr. De toute façon, voilà, le Rassemblement national, c'est une menace et c'est vu comme un danger par la plupart des étudiants, parce qu'on voit bien, quand on regarde des statistiques électorales, que déjà chez les jeunes, c'est quand même largement la gauche qui est majoritaire, et d'autant plus chez les jeunes en diplôme ou diplômé. Donc oui, clairement, le Rassemblement national s'est vu comme une grande menace. Et je pense par ailleurs que c'est vu comme une menace sur le monde universitaire aussi, parce que le Rassemblement national fait du milieu universitaire un lieu dans lequel se développerait l'extrême gauche, l'antisémitisme, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Donc ils ont l'air de voir le monde universitaire comme une menace. Et donc de fait, on a la crainte quand même que s'ils arrivaient en responsabilité, ils essaieraient un maximum de réduire les libertés dans ce champ-là. Moi, juste pour l'anecdote, mais qui n'en est pas forcément une, moi j'ai des collègues qui ont fait une audition à la rentrée à l'Assemblée nationale sur les sujets étudiants, dans une commission en plénière au sein de l'Assemblée nationale. Ils se sont fait presque insulter par la députée du Rassemblement national, devant une présidente de la commission qui est une socialiste, qui a été extrêmement choquée du comportement de ses collègues du Rassemblement national. Donc voilà, on sait très bien qu'on serait en tout cas menacé d'un point de vue démocratique s'ils arrivaient au pouvoir, c'est une certitude.
Alors, on parle du monde étudiant, il y a le monde rural aussi, le monde des campagnes, les jeunes des campagnes qui se sont tournés pour quelques-uns d'entre eux, en tout cas vers le Rassemblement National. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux jeunes des campagnes qui s'estiment oubliés, pas écoutés?
Bah, franchement, je sais pas moi si j'aurais l'arrogance de leur dire des choses, parce que je sais pas s'ils ont forcément envie d'entendre des discours qui vont leur dire faire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Moi, j'ai le sentiment que effectivement le monde politique, enfin il y a certaines catégories de la population qui se sentent abandonnées par le monde politique, et peut-être qu'on en parlera mais des élections américaines, mais je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu voilà dans ces deux pays là, enfin dans la plupart des pays d'Europe ou d'Occident entre guillemets, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est qu'il y a des catégories de la population qui se sentent de plus en plus délaissées par les pouvoirs, par les partis politiques, et qui de fait peuvent se tourner effectivement vers des discours qui semblent s'adresser à eux, qui à la fin ne régleront pas leurs problèmes, mais qui par contre vont sembler proposer des solutions par des politiques anti-immigration, des choses comme ça. Donc moi j'ai rien à leur dire particulièrement, parce que je pense que c'est pas à moi de leur porter un discours, mais je pense que oui, il y a un vrai besoin de retrouver un contact avec, ces milieux-là, ces populations-là qui se sentent abandonnées, quoi.
C'est le discours simpliste aujourd'hui, le discours clivant, comme on le dit, qui engendre beaucoup de colère, de haine. On le voit aussi sur les réseaux sociaux. Hein, si on s'y penche un peu, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un débat, d'avoir, de porter la contradiction éventuellement sans risquer de se faire insulter, voire plus. Il faut apaiser à un moment tous ces discours, il faut essayer de se comprendre.
Oui, bien sûr. Je pense que, enfin, voilà, une société démocratique, elle doit savoir aussi mener des débats avec apaisement. Maintenant, voilà, c'est mon regard peut-être un peu d'historien. Enfin, je suis étudiant en histoire aussi en parallèle, mais il y a plein de périodes dans l'histoire où, enfin, même dans la majorité des moments des sociétés démocratiques, les débats sont violents à plein de moments. Donc, qu'il y ait de la confrontation d'idées, même un peu violente, même qui parfois peut entraîner voilà, des moments de violence, c'est pas forcément un problème en soi. Ce qu'il faut, c'est savoir en sortir derrière. Mmh. Et que ce soit des périodes de crise, des périodes courtes, qui restent courtes. Si on s'installe dans quelque chose de durable, c'est là où derrière on finit par des crises graves et qu'on peut arriver vers des pouvoirs d'extrême droite, ou en tout cas des crises vraiment importantes. Mais qu'il y ait des périodes de confrontation dure, moi, ça me choque pas, ça fait partie du jeu démocratique, mais faut pas non plus qu'on s'installe dans quelque chose d'aussi violent en permanence, quoi.
Sur la politique, est-ce que... alors bon, évidemment, Emmanuel Macron est arrivé en 2017, a bousculé beaucoup de choses dans la composition politique française. Est-ce que certains sujets, vous parliez tout à l'heure d'immigration, on aurait pu y ajouter la sécurité ou bien d'autres sujets. Est-ce que les partis républicains, que ce soit à droite ou que ce soit sur cette gauche modérée ou à gauche plus largement, j'allais presque dire, sont passés à côté de sujets dont ils auraient peut-être pu s'emparer pour ne pas laisser, par exemple, l'extrême droite s'en emparer. On pense à l'immigration, évidemment.
Oui, sans doute. Alors moi, encore, je ne me permettrai pas de donner des leçons aux partis politiques, parce qu'ils ont une tâche qui est bien difficile. Hein. Mais la seule chose que je dirais, c'est que tous les sujets peuvent être, doivent être abordés par un parti. C'est le principe même, c'est que ils doivent proposer des solutions sur tout. Maintenant, chacun voit midi à sa porte sur les priorités qu'il met. Si un parti préfère parler d'un sujet plutôt que d'un autre, ça les regarde. Mais moi, j'ai rien à leur dire sur quoi faire. Voilà, c'est une tâche qui est bien difficile et que je leur laisse bien volontiers pour l'instant.
Vous parliez tout à l'heure, vous avez fait une toute petite allusion à ce qui se passe outre-Atlantique. Donald Trump a donc été élu plutôt assez confortablement. Il a également remporté le Sénat. Donc, il dispose quasiment de tous les pouvoirs aux États-Unis désormais, une investiture au 21 janvier et une inquiétude ici en Europe et même en France de la montée du populisme, car on l'aura compris, on voit déjà la composition de ce que sera le gouvernement Trump. Voilà, c'est un gouvernement très marqué, si vous me permettez le terme.
Oui, bah c'est sûr. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez... Enfin, je trouve ça tous les 4 ans, en fait, assez... fascinant à quel point l'Europe et toute une partie du monde est les yeux rivés sur ce qui se passe aux États-Unis et que on attend tous patiemment de savoir ce que vont voter les électeurs de Pennsylvanie. Enfin, c'est quand même assez assez impressionnant de voir encore la place qu'ont les États-Unis dans le monde et cette centralité encore dans ce que eux vont décider qui va ensuite entraîner le monde. Bon, maintenant, effectivement, c'est quand même quelque chose de très inquiétant. Je pense que, effectivement, on savait que Donald Trump pouvait gagner, tous les sondages le montraient. C'est effectivement l'ampleur de sa victoire qui est quand même assez impressionnante, et le fait qu'il ait réussi à avoir plus de voix en nombre absolu que Kamala Harris, ce qu'il n'avait jamais réussi à faire, même quand il avait déjà gagné. Donc, c'est quand même assez impressionnant, assez inquiétant. Je pense que voilà, il y aura du temps pour tirer les conclusions de pourquoi c'est arrivé et de cette façon-là. Maintenant, on voit que... Enfin, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup même en Europe sur oui, mais bon, vous savez, si l'extrême droite il prenait le pouvoir, il ferait pas ce qu'on, il serait plus modéré qu'on le dit. On dit souvent ça à Giorgia Meloni par exemple. Mm-hmm. Bah, on voit que Donald Trump, en fait, c'est pas vrai. Il fait exactement ce à quoi on s'attendait. Il a nommé Elon Musk, il a nommé tout un tas de personnages qui lui sont très loyaux et qui sont très très à droite, même pour les États-Unis. Et voilà, il fait ce qu'il avait dit finalement. Mm-hmm. Donc faut toujours se méfier quand on dit non, mais ce sera pas si terrible qu'on le dit. Ça, la preuve que si, ça peut l'être en tout cas.
Avec un retour de la religion dans l'État, même si c'est assez marqué aux États-Unis, sans doute plus que dans nos pays européens. Oui. Mais voilà, on a l'impression que là, on va gouverner aussi avec la forme religieuse. C'est quelque chose de nouveau ou c'est un cheminement naturel selon vous?
Je sais pas si c'est un cheminement naturel. En tout cas, c'est pas tout à fait nouveau, effectivement, aux États-Unis, à mon sens. Mais après, moi, j'ai le sentiment, effectivement, enfin, il y a un historien qui s'appelle Johan Chapoutot qui a fait un livre sur ce qu'il appelle les grands récits. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est que, notamment avec la chute de l'URSS, on a perdu, cette référence qu'on pouvait avoir à des grands récits qui expliquaient tout un tas de choses, qui donnaient des réponses à tout. Et finalement, on a le sentiment que les gens ont besoin de ces grands récits-là et que la religion, ça reste le grand récit le plus qui a le plus marché dans l'histoire du monde. Hein. Donc, ça permet aussi de répondre à toutes les inquiétudes et à toutes les angoisses. Et on sait bien que dans l'histoire, quand il y a de l'inquiétude, de l'angoisse face à des crises, face à des insécurités, on peut avoir un retour de la religion. Effectivement, aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on voit. Et les républicains ont ce discours effectivement très centré sur la religion, mais même les démocrates aux États-Unis paraîtraient comme des énormes bigots si on était en France, hein, par exemple. Mais voilà, il y a un retour de la religion qui est quand même un signe à mon sens, assez inquiétant à analyser quand même. Ouais.
On pourrait faire le parallèle, sans faire l'analogie forcément, mais avec la Russie, Vladimir Poutine, qui a remis sur le devant de la scène la religion orthodoxe, particulièrement depuis la guerre en Ukraine.
Oui, tout à fait. Ben, je pense que la religion reste, a toujours été dans l'histoire et restera un outil très utile pour les chefs d'État qui veulent légitimer des guerres ou une certaine politique pour être un excellent prétexte. Et effectivement, Vladimir Poutine a utilisé l'orthodoxie en disant que l'Ukraine martyrisait les chrétiens orthodoxes de l'église russe. Enfin voilà, on peut toujours trouver des prétextes. Et bon, là, effectivement, aux États-Unis, Donald Trump a expliqué que la liberté religieuse était menacée, que voilà, il propose de remettre la Bible dans les classes. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Bon, je pense que ce sera toujours un prétexte qui sera utilisé par un peu tous les bigots, effectivement, du monde, quoi. Ouais.
Avec un aspect sociétal, évidemment, aux États-Unis, il y a des angoisses de plusieurs populations. On pense aux populations LGBT, je vais y arriver, LGBT, ou encore les femmes, plus largement, qui craignent qu'elles ne puissent plus avorter dans certains États, voire même peut-être un jour dans tous les États. Ouais. On pourrait imaginer une dérive de la sorte ici en Europe, si les populistes gagnaient du terrain.
Je pense que tout est possible. Enfin voilà, rien n'est jamais, ne peut pas arriver. Tout peut arriver en soi. Maintenant, bon, la politique américaine c'est quand même quelque chose de très particulier, notamment effectivement le fait qu'aux États-Unis on peut avoir des États qui font quelque chose et l'État voisin fait totalement l'inverse et ça pose pas de problème. Ce qui en France par exemple serait difficilement applicable effectivement. En tout cas dans l'État actuel de la répartition territoriale. Mais je pense qu'effectivement, il ne faut jamais garder pour acquis un droit. Je pense que voilà, la démocratie et de manière générale, tous les droits sont des choses qui peuvent être, retirées si un pouvoir en a le souhait et en a les moyens. Et je pense que voilà, c'est clairement un risque. Et là, on voit qu'aux États-Unis, probablement à cause de sujets économiques, on parle beaucoup de l'inflation, etc. Finalement, les Américains ont accepté de remettre en jeu un certain nombre de leurs droits pour ce qu'ils voient comme un retour à la prospérité. Et c'est quelque chose qui est un phénomène qu'on peut voir dans tous les pays, je pense. Hein, oui.
Oui, on l'entend ici en France. Les revendications sont très sociales. On va y venir tout à l'heure. Mais les revendications sont très sociales. Les gens ont du mal à vivre, du mal à boucler les fins de mois, du mal à se chauffer. L'hiver arrive. On peut craindre un jour que certains disent finalement, si je peux arriver à me chauffer, à vivre un peu mieux, à manger un peu mieux, bah, ma foi, je suis prêt à abandonner un petit peu de liberté ou une part de mes libertés individuelles.
Oui, oui, je pense que c'est possible, effectivement. C'est malheureusement quelque chose qui peut arriver. Enfin, je refais le parallèle avec les États-Unis, mais c'est pas que ça m'obsède, hein, c'est que je trouve que c'est quand même intéressant. Je voyais l'autre fois l'interview d'un électeur de Pennsylvanie qui disait, ah, mais moi, je suis d'accord pour dire que Donald Trump... Il y a un peu d'Adolf Hitler en lui, et je pense qu'effectivement, il a de ça. Mais bon, quand même, moi, quand c'était lui, je pouvais me chauffer moins cher. Donc j'ai voté pour lui. Voilà. Bah, je trouve que ça résume bien. Ça peut arriver.
Voilà, c'est le côté aussi simpliste, peut-être, qui se met en place sur tout ce qui est populisme, finalement.
Oui, bah, populisme, démagogie, on peut appeler ça de toutes les façons qu'on veut. Même un certain discours emprunt d'une certaine forme de fascisme au sens aussi historique du terme. Enfin, oui, je pense que c'est des choses dont effectivement les leaders populistes, démagogues ou fascistes savent très bien surfer sur une crise. Hein, voilà. Et on parlait d'Hitler, mais j'aime pas les comparaisons gratuites avec Hitler. Hein, c'est pas toujours très intéressant. Mais le parti nazi s'appelait national-socialiste, en sachant aussi prendre ce qu'il y avait à prendre dans le discours marxiste et socialiste, tout en faisant l'inverse une fois au pouvoir. Mais voilà, il y a aussi toujours une capacité de s'adapter de ces mouvements-là à ce qui fonctionne, bien sûr.
C'est ce qui a amené aussi beaucoup d'interprétations. Là, je parle à l'historien. Aujourd'hui, ce terme national-socialisme, on le voit revenir sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais. Là aussi, c'est inquiétant, ce retour, cette espèce de point Godwin, là.
Bah moi en tant qu'historien, j'aime pas quand on compare tout à tout parce que ça n'a pas toujours de sens. Mais ce qui est une réalité, je pense par contre, c'est que dans ces mouvements-là, on va dire plutôt à l'extrême droite, en réalité, la dimension idéologique compte moins quand même que dans d'autres parties du spectre politique et notamment à gauche. Et un exemple, c'est que par exemple, Elon Musk, puisqu'on parlait de lui. Il peut trouver très bien ce que dit Donald Trump, qui dit qu'il faut faire du protectionnisme, mettre des barrières douanières, et en même temps il loue Javier Milei en Argentine, qui a fait tout l'inverse. Et en même temps, ils se sentent aussi proches de Marine Le Pen, qui a un discours qui est quand même pas tout à fait le même que le discours extrêmement libéral, beaucoup plus que Marine Le Pen. Enfin, donc en fait, le caractère idéologique, il est moins fort dans cette famille politique-là, et ils sont capables de dire. C'est vrai qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais par contre, on sait qu'on est dans le même camp et on sait qu'on va tous dans le même sens et qu'on a un projet politique qui est quand même partagé. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que... Enfin, voilà, quand moi, je suis... j'ai quand même quelques années de militantisme à gauche et quand je vois qu'on est capable de se battre sur une virgule ou trois lettres dans un texte, c'est quelque chose qui n'est pas vrai à l'extrême droite, clairement. Même, ils ont aussi des débats idéologiques, mais qui sont, à mon sens, moins forts que dans d'autres parties du spectre politique, quoi.
Toujours en restant aux États-Unis, il y a eu cette déclaration de Joe Biden qui autorise l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée pour se défendre, on l'aura compris. C'est pas forcément une bonne idée.
Alors, pour le coup, moi, je resterai humble là-dessus. Je suis pas du tout spécialiste ni de l'Ukraine, ni du conflit actuellement. En tout cas, je pense que... faire ça maintenant, à quelques mois de l'arrivée de Donald Trump, il y a une volonté, clairement, je pense, de faire passer un message aussi, de dire que même si Donald Trump prend le pouvoir, il ne pourra pas lâcher l'Ukraine. Je pense que c'est aussi l'objectif. Maintenant, moi, j'ai peur aussi que ça crée beaucoup d'angoisse dans tout un tas de populations. Et bon, c'est difficile aujourd'hui d'estimer, par exemple, quel est l'impact qu'a eu le conflit entre Russie et Ukraine sur les électeurs américains, mais on voit que c'est aussi un facteur qui compte dans les votes des gens. Et donc, j'espère que ça n'aura pas d'impact négatif et que le discours qui consiste à dire, comme l'a fait Donald Trump, moi, j'arrêterai la guerre tout de suite, facilement.
En 24 heures.
Voilà, en 24 heures, disait Donald Trump. Voilà, bon, il a dit même, dès que j'aurai gagné, même avant d'être au pouvoir. Bon, on attend toujours. De fait, j'ai peur que ce genre de conflit facilite les discours simplistes aussi.
Avec quand même un risque d'escalade et pour nous, en Europe, ici, des conséquences possibles.
Bah évidemment, oui. Toute guerre implique un risque d'escalade. Et c'est vrai que On a vu depuis ces dernières années, parce qu'il y a le conflit en Ukraine, il y a aussi le conflit, enfin je sais pas si on appelle ça un conflit, mais en Palestine, tous ces sujets-là ont fait revenir un petit peu la guerre dans dans l'actualité européenne de façon peut-être plus forte que ces 20 dernières années, même s'il y a eu des guerres, il y en aura sans doute encore longtemps, mais c'est vrai que la guerre est revenue au centre de l'actualité et que la guerre en Ukraine a eu un impact très concret sur les pays européens, plus que tous les derniers conflits depuis des années. Donc oui, il y a un risque d'escalade et en tout cas, on ne peut souhaiter que la paix revienne, mais maintenant, je pense que c'est un discours qui n'est pas forcément facile à entendre quand on est au cœur du conflit et qu'on se sent menacé par la Russie, par exemple. Je comprends qu'on ait du mal à entendre que il faut faire la paix tout de suite, mais en tout cas, je pense que c'est une nécessité, oui.
Faire la paix aussi au Proche-Orient, on voit le Liban, on voit la bande de Gaza, on voit aussi Israël, zone très conflictuelle depuis des années et des années, un conflit qui n'en finit pas, qui prend une autre dimension aujourd'hui, dimension très violente, et qui prend une autre dimension puisque le conflit s'est importé en Europe et sur notre territoire. Et on a beaucoup pointé, alors là je vais m'adresser aussi aux militants de gauche que vous êtes, on a beaucoup pointé la gauche avec des mots violents par exemple, comme antisémitisme, etc. Là aussi on est sur une pente un peu fatale, un peu dangereuse.
Oui, je pense que clairement là-dessus il y a des simplicités, là encore des choses simplistes qui se disent, etc. C'est un conflit, moi j'aime pas trop le terme importer le conflit, parce qu'en fait aujourd'hui un conflit, quand il a lieu dans le monde et qu'il y a des images, il est déjà chez nous en fait, parce que voilà, même le conflit ukrainien, si vous tapez sur YouTube, vous pouvez avoir des vidéos, vous pouvez voir des soldats entrer dans une maison, enfin voilà, vous pouvez tout savoir, et c'est pareil sur le conflit israélo-palestinien, c'est que vous avez une masse d'informations, ou de fausses informations d'ailleurs, qui se déversent, et donc tout le monde y a accès, et de fait ça devient un sujet. Et oui, je pense qu'il y a un vrai danger à ce que ce sujet-là, derrière, on nous explique que quelqu'un qui défend les Palestiniens soit antisémite. Ce qui n'empêche pas que dans ce cadre-là, peut y avoir des propos antisémites qui sont tenus. C'est vrai, je veux dire, moi j'ai pas de problème à dire que c'est une réalité. Et je comprends que des gens peuvent se sentir mal à l'aise ou menacés à cause de ça. C'est pas un problème de le dire. Maintenant, faut savoir quand même faire la part des choses et... effectivement, même la plupart des gens qui se mobilisent, je pense, pour la Palestine n'ont pas de traces d'antisémitisme au sein de leurs revendications et de leur mobilisation. Donc maintenant, je pense que s'il y a de l'antisémitisme, il faut le combattre, il faut le mettre dehors, mais je pense pas que ce soit quelque chose de majoritaire aujourd'hui.
Il y a eu le cas de quelques étudiants, je m'adresse cette fois-ci aux syndicalistes étudiants que vous êtes, il y a eu le cas de quelques étudiants juifs qui ont été poussés en dehors de certains amphithéâtres en France. Mauvais signal ?
Alors j'avoue que moi je connais pas exactement ce qui s'est passé dans ce cas-là, mais si c'est le cas et que ça a été fait, évidemment que c'est un mauvais signal. Je pense que c'est quelque chose qui doit pouvoir... on doit pouvoir débattre le plus sereinement possible. C'est pas facile de débattre sereinement de ce sujet-là, et parce qu'il est très émotionnel et très très intense pour beaucoup de gens. On doit pouvoir débattre de ce sujet-là de la même façon que les autres, avec tout le monde. Maintenant, moi, je sais que par exemple, vous parliez tout à l'heure, on parlait de la menace aussi sur les libertés. Il y a des militants de la cause palestinienne qui se sentent qui ont peur que derrière, parce qu'ils auront été vus en train de se mobiliser pour la Palestine, ils aient des représailles sur leurs études, qu'ils soient menacés d'exclusion, etc., comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment à Sciences Po, Paris. Derrière, ça peut aussi créer des tensions entre des étudiants qui vont accuser d'autres de les avoir dénoncés à l'administration. Voilà. Et derrière, en fait, tout cet engrenage, il est très malsain et il emmène forcément à des choses, à des événements comme ça, très négatifs, quoi.
Sur le volet social, je voulais vous entendre là-dessus aussi, parce que on le disait tout à l'heure, on l'évoquait, il y a une demande sociale en France, demande sociale aussi de la part des étudiants, on va évidemment y revenir, demande sociale de la part des agriculteurs avec des inquiétudes. Emmanuel Macron s'est rendu en Argentine, a discuté avec le président argentin, en tout cas a essayé de le convaincre, la suite nous dira s'il y est parvenu ou pas, avec également l'Union Européenne qui est plutôt pour les accords du Mercosur, ce qui aurait quand même un impact assez violent pour les agriculteurs et l'agriculture française. On a l'impression que on a dans nombre de domaines une attente sociale et une attente sociale qui risque d'être déçue.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'il y a quand même une inadéquation entre, je pense, la politique que veut adopter le gouvernement et qu'il adopte depuis des années et les attentes des gens, hein, clairement. Et là, voilà, je pense que le fait qu'on ait un gouvernement très minoritaire et qui n'a pas de majorité fait qu'en plus, il n'a aucune marge de manœuvre pour pouvoir légiférer sur ces sujets-là. Donc oui, je pense qu'il y a une grosse inadéquation entre les attentes des gens et la réalité des politiques qui sont menées et qui peuvent être menées par le gouvernement. Et moi, j'ai le sentiment, et d'ailleurs, je pense que ça rejoint ce qu'on disait sur les États-Unis, etc., que le libre-échange et le libéralisme économique, il est de plus en plus rejeté par les populations, et que avec le gouvernement actuel qui est quand même très libéral, je pense quand on voit, je pensais à Guillaume Kasbarian, par exemple, le ministre de la fonction publique, qui tient des discours qui félicitent Elon Musk, etc., enfin des choses comme ça, je pense que clairement. Ce discours-là, il n'est plus du tout adapté, il n'est plus du tout en phase avec les attentes d'une majorité de la population. Ce qui ne veut pas dire que derrière, tout le monde est d'accord sur quoi faire, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a une majorité pour arrêter ces politiques libérales et de libre-échange, quoi.
Il nous reste deux petites minutes, notre réalisateur dans le casque. J'aurais voulu vous entendre sur le regard de l'historien sur ce qui se passe aujourd'hui. On est dans une phase de grand bouleversement à tout point de vue. Qu'est-ce qu'elle va retenir l'histoire de cette époque turbulente, compliquée?
C'est une vaste question. Ouais, c'est une question difficile hein, parce que déjà, les historiens vont sans doute seront pas d'accord sans doute sur quoi retenir de cette période-là.
Ça promet de beaux ouvrages.
Oui, sans doute de beaux ouvrages, de beaux débats aussi. Mais par exemple, peut-être pour donner une perspective un peu, j'écoutais récemment un historien qui s'appelle Pierre Cernat qui parle d'Emmanuel Macron et de ce qu'il représente comme étant. Un représentant de l'extrême centre, c'est une théorie qu'il a développée, qu'il considère, qui dit qu'en fait, à des moments de crise dans l'histoire, il y a des figures comme Emmanuel Macron qui arrivent et qui proposent de régler la crise et qui vont mener des politiques soi-disant modérées, mais qui en fait vont toujours nous amener vers la droite extrême parce que ça va juste créer encore plus de mécontentement et en plus en ayant une pratique du pouvoir très verticale malgré un positionnement plus ou moins centriste, voilà. Et je trouve que ça colle assez bien avec ce qu'on trouve aujourd'hui. Il fait le parallèle, il parle pas que d'Emmanuel Macron, il parle d'autres phénomènes que je n'expliquerai pas ici, mais voilà, je trouve que c'est quand même une piste intéressante pour analyser cette époque-là. Mais ce qui est sûr, c'est que les historiens auront sans doute des heures et des heures de débats, comme ils en ont encore sur plein de périodes de l'histoire, sur la nôtre, quand on pourra l'analyser. Oui.
L'importance de l'œil et du regard des historiens, et peut-être de nous rappeler que l'histoire, eh bien, n'est pas toujours si éloignée de ça du présent.
Ça c'est sûr. Il ne faut pas toujours comparer, parce que ce n'est pas si simple que ça, mais une comparaison n'est pas raison, surtout pas en histoire, mais... on peut toujours trouver des leçons quand même et des analyses intéressantes dans les périodes historiques précédentes. Ouais.
Vous reviendrez nous parler d'histoire et analyser la situation très largement comme vous l'avez fait ce matin. Nathan Guillemot, je rappelle que vous êtes vice-président étudiant et vie étudiante à l'Université de Rennes 2 pour l'Union étudiante. Vous étiez en direct avec nous ce matin dans la matinale. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée.
Merci, bonne journée à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.